2 ampoules sur 5. Librement inspiré de Notes sur Anna Armatova de Lydia Tchoukovskaya. Adaptation Isabelle Lafont. Réalisation Pascal II.
10 novembre 1938.
Hier, je suis allée chez Anna Armatova pour affaires. Moi, qui depuis l'enfance savais ses vers par cœur et collectionnais ses portraits, je n'aurais jamais pensé que j'irais un jour chez elle pour affaires. Quand j'avais 13 ans, mon père me conduisit un jour auprès d'elle et elle me dédicaça son poème, tout au bord de la mer. J'étais hors d'état de lever les yeux sur elle, car en entrant, mon père avait déclaré « Lydia dit que si on compare à la variante de la revue, il y a ici un vers qui manque. » Ce « Lydia dit » m'avait tué. Ensuite, je la vis à la Maison des gens de lettres, où l'on donnait une soirée à la mémoire du poète Bloch. Elle récita « Et l'on fête aujourd'hui la Vierge de Smolensk » et partit aussitôt après. Son port majestueux, son châle azuré, sa démarche, son regard lointain, sa voix, tout cela me frappa profondément. Impossible de croire que cette femme était de la même essence que nous tous. Après son départ, j'éprouvais avec une particulière acuité le mal secret de la séparation. Mais pour rien au monde, je n'aurais consenti à aller l'aborder. Une autre fois, je la rencontrai à Holguino, sur une avenue toute droite plantée d'arbres qui va de la gare à la mer. Elle marchait en compagnie d'une dame aux cheveux opulents. Saluant Anna Armatova, j'eus honte, encore plus qu'à l'habitude de moi-même, de ma gaucherie, de mon dos rond. L'avenue était droite, comme une corde, et je pensais, tout en les regardant s'éloigner, qu'il eût été plus aisé de rendre leur svelte apparition par une phrase musicale. Hier, je suis allée chez Anna Armatova pour affaires. Le bruit avait couru que lorsque Nikolai Pounine, son mari et son fils Lyova avaient été arrêtés, elle avait écrit une lettre à Staline et qu'ils avaient été relâchés sur le champ. Je venais m'informer sur le contenu de cette lettre qu'elle avait écrite. Je traverse la maison de la science récréative. Quel nom crétin. J'entre dans le jardin. Les branches des arbres semblent faire surgir les vers d'Anna Armatova. Je gravis un escalier noir, périlleux, d'un autre âge dont chaque marche en valait trois. Encore l'escalier avait-il quelques points communs avec elle, mais la suite. À mon coup de sonnette, une femme m'ouvre la porte. Les mains couvertes de mousse de savon. Cette mousse, l'état lamentable de cette entrée dont la tapisserie pend par lambeaux, tout cela me prend au dépourvu. La femme m'ouvre la route. Dans la cuisine de l'appartement communautaire, du linge sur des cordes. Quelque chose de mouillé me balait les joues. Ce linge mouillé, c'est comme le sommet d'une histoire sordide à la Dostoïevski. Un petit couloir après la cuisine et une porte à gauche, la sienne. Elle porte un peignoir de soie noire brodé au dos d'un dragon d'argent. Je lui pose ma question sur le contenu de cette lettre qu'elle avait écrite à Staline. Je pensais qu'elle allait chercher un brouillon ou une copie. Non. D'une voix égale, me regardant bien dans les yeux, elle me récite tout le contenu de la lettre par cœur. Toute la pièce a un air d'abandon. Près du poêle, un fauteuil auquel il manque un pied, tout loqueteux, il montre ses ressorts. Quelques beaux objets, ici ou là, une chaise en bois sculpté, un miroir au cadre lisse et de vieilles images populaires sur les murs. Tout cela souligne encore davantage le dénuement.
Le 22 février 1939.
Elle est arrivée en vieux manteau, chapeau fané, aplati. en bas grossier. Elle est assise sur mon divan et fume. Svelte, belle, comme toujours. Puis, elle parle des femmes qui attendent devant les prisons.
Je ne peux pas voir ses yeux. Vous avez remarqué ? On dirait qu'ils ont une existence propre, indépendante des visages. Éteignez les lumières, on est dans un appartement communautaire et je n'ai pas envie à cause de vous de terminer dans un camp.
Elle dit aussi...
Ma voisine n'aime pas son fils, elle le bat. Quand elle prend la corde et commence à frapper, je m'en vais dans la salle de bain.
Ensuite, elle regarde mes livres, plus exactement les livres anglais de mon mari Mitya. Notre bibliothèque nous avait été confisquée, mais inexplicablement, tous les livres en anglais nous avaient été laissés. Elle choisit Browning et je pars la raccompagner. Il fait un temps froid, sec, sans neige.
Le 28 juillet 1939.
Beaucoup de choses à noter ces 10 derniers jours, mais je n'ai pas voulu le faire dans la hâte. Je vais essayer de les retrouver maintenant. Voilà. Ce devait être le 14 dans l'après-midi. Soudain, coup de téléphone. Je n'arrive à identifier qui est au bout du fil que lorsque Anna Akhmatova se présente. Tant sa voix a changé. Elle me demande de venir la voir tout de suite. Son fils, Lyova, a été transféré dans une prison du Nord. Elle est autorisée à le voir quelques instants pour lui remettre un colis de vêtements. Il faut trouver en urgence des affaires chaudes. En quelques coups de téléphone, je réussis assez vite à trouver bonnet, écharpe et pullover. Tous ceux à qui je téléphone comprennent immédiatement et sans rien me demander. Un bonnet, nous n'en avons pas, mais des moufles, ça vous intéresserait ? Les bottes, dit Anna Akhmatova, nous les avons déjà. Elles sont en pension chez des amis.
Bonjour.
Bonjour Kolia.
Bonjour.
Nous venons chercher les bottes.
Mon fils Lyova a été transféré dans une prison du Nord.
Attendez-moi une seconde, je vais les chercher.
Merci.
Elles sont là pour les bottes.
Mais les bottes, elles sont pas là, je les ai mis chez le cordonnier hier, Kolia.
Ah, je sais pas moi.
Mais je te l'ai dit hier.
Rien dit. Je suis désolé, elles sont au ressemblage.
Ah mais c'est pas possible.
Ne vous inquiétez pas. Je vais passer les prendre et je vous les apporte demain, à 8h.
D'accord.
Au revoir.
Au revoir, au revoir.
Je ne vous remercie pas. On ne remercie pas pour ces choses-là.
août 1939.
Je suis revenue de la datcha le 31 juillet pour passer seule, chez moi, entre ces murs, la nuit de l'anniversaire. 2 ans plus tôt, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1937, une perquisition fut effectuée dans mon appartement et on me présenta le mandat d'arrêt de mon mari Mitya. À ce moment-là, il se trouvait à Kiev, chez ses parents. Je fis plusieurs tentatives pour le prévenir, mais aucune n'aboutit. Et il fut arrêté dans la nuit du 5 au 6 août. Il fut fusillé immédiatement, mais je ne l'appris que des années plus tard. À 7 heures du soir, je suis allée chez Anna Akhmatova. Elle était triste et à moitié valide.
J'attends une réponse au sujet de Lyova. Une de plus. Je suis sûre que ce sera un refus.
Mais quand même, il vous reste un espoir.
Vous savez ce que c'est la torture par l'espoir ? Après le désespoir vient le repos, Mais l'espoir, ça rend fou.
Je n'aurais jamais dû, même en pensée, comparer le destin de mon mari à celui de son fils, Liova. Liova, lui, est vivant.
18 octobre 1939.
Je m'apprête au départ pour Dolossi en Crimée. Tous ces derniers jours, j'ai travaillé au verre d'Anna Akhmatova. J'ai passé plusieurs jours à ma table, entouré des diverses éditions de ses livres, réfléchissant à la ponctuation, à la chronologie, aux variantes. Nous avons convenu que je viendrai chez elle ce matin, tôt si possible, elle a insisté. J'arrive à midi, je frappe une fois, deux fois, pas de réponse. Anna Akhmatova est chez elle, je demande à une gamine ébouriffée de l'appartement communautaire. La gamine frappe à son tour, de bon cœur.
Anna !
Anna m'ouvre enfin la porte. Comment vous sentez-vous ? Vous vous êtes levée très tôt ou vous n'avez pas du tout dormi ?
Vous n'en avez pas assez de Pétersbourg ? Moi, si beaucoup. Pendant les nuits blanches, on entend crier un phoque dans un cirque.
Vous êtes tellement à part. Se pourrait-il que vous ressembliez à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Qui a trouvé votre pseudonyme ?
Akhmat, c'est le nom des derniers princes tatars. Ma grand-mère était une princesse tatare. L'idée m'est venue de prendre ce pseudonyme un jour que mon père, qui avait appris que j'écrivais de la poésie, m'a dit « Ne déshonore pas mon nom ». Je lui ai répondu « J'en ai pas besoin de ton nom ».
Je n'aime pas quand des acteurs lisent vos vers.
Je n'ai jamais aimé parler en public, je trouvais ça indécent. Du temps où j'étais éditée, si je trouvais sur la table une revue avec des vers à moi, je trouvais ça déplacé, comme si j'avais oublié un bas ou un soutien-gorge. Quand mon mari ou mon fils, Liova, récitait devant moi le moindre de mes poèmes, je prenais quelque objet très lourd et puis je leur lançais sur la tête.
Vous avez des nouvelles de votre chambre ? Vous l'avez vue, cette chambre ?
Vous savez bien qu'un appartement communautaire qu'on connaît est mieux qu'un appartement communautaire qu'on ne connaît pas. Je suis habituée ici. Et puis, quand mon fils, Liova, reviendra, il aura sa chambre. Car il reviendra bien un jour.
Vous savez ce que c'est un magnétophone ? Vous ne savez pas ? Personne ne sait.
On nous surveille, je crois. C'est mon cœur qui fait des siennes. J'ai eu 5 crises cardiaques en 2 jours. On m'a même conseillé de me faire hospitaliser et ça m'a remise d'aplomb, ce conseil.
Papa m'a dit que vous faisiez de la gymnastique. Est-ce que c'est vrai ?
J'ai reçu une lettre aujourd'hui à 8h du matin. C'est dur de ne rien recevoir. Je suis restée 3 mois sans une seule ligne. Mais recevoir une lettre, c'est pire. Mon fils m'écrit « Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Liova. Liova. »
« 5 janvier 1940.
Vous savez, j'ai compris ces derniers jours que j'étais entièrement responsable. De tout ce qui s'est passé avec mon livre, le comité central est dans son droit et moi, je suis coupable.
Mais non,
s'il vous plaît. Il voulait imprimer mes vers. La maison d'édition avait fait son choix. Alors j'ai de moi-même introduit de nouveaux vers. Là-dessus, j'ai placé en premier le poème le plus triste et par-dessus le marché, j'ai donné son nom à tout un cycle. Puis, le responsable littéraire a encore ajouté une 30aine de poèmes anciens et cela a fait un livre qui ne ressemblait plus du tout au livre autorisé et souhaité.
Non,
s'il vous plaît, ne discutez pas, je n'invente pas. S'il vous plaît, ne discutez pas.
Mais vous n'êtes en rien responsable des vers qu'on vous a extorqués de force.
Personne ne savait quel livre était voulu en haut lieu. On n'était nourri que de « on dit ».
Écoutez, il demande que dans mes poèmes, il n'y ait ni mysticisme, ni pessimisme. Tantôt, il ne faut rien écrire de divin, tantôt rien de lugubre, tantôt rien sur le passé, tantôt rien sur 37, tantôt pas de mots archaïques. Mais qu'est-ce qu'il reste alors ? La fornication ? Et si je n'avais pas fait ça, mon fils Liova serait ici. Il serait ici.
« 10 janvier 1940. »
« Ça fait 3 semaines que je n'ai plus de thé. Mais il me reste une biscotte, on a de l'eau bouillie et j'ai de la confiture de myrtille. Ça va me faire du bien. Impossible de retrouver des fourchettes nulle part. »«
Mais c'est pas d'être ici, je les ai vues moi-même dans la cuisine. » »«
Mais non, elles sont volatilisées et c'est comme ça avec tous les objets de l'appartement communautaire, ils disparaissent instantanément. J'avais acheté une boîte à savon. » Je voulais la faire parvenir à mon fils, Liova, et elle a disparu, volatilisée. Tenez, je vais aller à l'hôpital, comme ça, moi, je serai sûre d'avoir mes 3 repas par jour.
Je voulais aller dîner chez mon amie Xenia, mais elle m'a dit « Ne venez pas, il faut que je couche ma poule. »
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Rien. J'ai fait comme si j'avais couché des poules toute ma vie.
» 25 janvier 1940.
Tenez, prenez ces feuilles et mettez la ponctuation, s'il vous plaît. Ça, je ne sais pas le faire. Là, voilà.
Avec la ponctuation, c'est comme pour traverser la rue. Vous n'avez pas confiance en vous, mais vous êtes parfaitement capable de la placer. À première vue, votre poésie ne frappe pas par la nouveauté de la forme comme la poésie de Maïkovski. En fait, c'est une grande route. Vous conservez l'aspect classique du vers, mais à l'intérieur, vous produisez des séismes, des révolutions. Excusez-moi, je dois y aller. Je dois aller chercher ma petite douche.
Restez 5 minutes avec moi, s'il vous plaît.
Non, je ne peux pas la laisser seule, là. Excusez-moi.
Comment va votre petite fille?
Elle va bien, merci.
Quel âge elle a maintenant?
Elle a 11 ans.
Ouais. Et qu'est-ce qu'elle lit?
Elle lit Tom Sawyer. Mais excusez-moi, je dois y aller. Je ne peux pas la laisser seule, pour la bonne raison que la chambre de mon mari Mitya est désormais occupée par un agent de la NKVD. Il est ivre les jours de congé, et parfois il laisse sa chambre à sa sœur, qui est une prostituée professionnelle. Excusez-moi, je dois y aller.
« 18 février 1940.
Anna, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'aimez pas Tchekhov ?
Je ne l'aime pas parce que tous les gens qu'il montre sont des êtres pitoyables, incapables de se dépasser, leur situation à tous est sans issue. Je n'aime pas cette littérature, je n'aime pas. Alors, je veux bien que cet aspect de la littérature soit une conséquence de l'époque, mais je n'aime pas. Et je ne crois pas du tout les gens comme vous qui disent aimer Tchekhov et la poésie. Tchekhov est complètement contre-indiqué pour la poésie. Même les vêtements sont affreux dans ces pièces, des petits chapeaux horribles, des robes infâmes. Un jour, tenez, écoutez, je suis allée au théâtre avec Vladimir, mon troisième mari, voir je ne sais plus quelle pièce de Tchekhov, et à l'entracte, Vladimir m'a dit « Tu as vu ? Il y a une souris qui a traversé la scène, je me demande bien si c'est un hasard ou une indication du metteur en scène. »
Et que pensez-vous de Stanislavski ?
Je ne l'aime pas. Il a été catastrophique pour le théâtre. Il a trouvé le moyen de monter des pièces de Tchekhov. Il a découvert dans ses pièces quelque chose, mais ensuite il l'a appliqué aux autres pièces, les fameux silences, etc., etc. Tout est tellement réel, archi-vrai.
Mais vous l'avez déjà vu sur scène ?
Non. Mais en privé, oui, dans un sanatorium, entouré de l'adulation générale.
Quelle chance. Il est aussi beau qu'en photo ?
Pas du tout. Il a une gueule de singe et des mains de singe. Non, mais ce qui me touche chez lui, c'est qu'il a une passion forcenée du théâtre. La vie en dehors du théâtre ne l'intéresse pas, tout simplement. Un jour, un homme m'a dit « Vous êtes une femme courageuse, vous n'avez peur de rien. » Ce n'est pas vrai, non, non. On ne peut pas ne pas avoir peur. J'ai peur de traverser la rue, j'ai peur des pigeons, j'ai peur des gens qui n'ont pas peur, j'ai peur.
Mars 1940.
Bonjour Anna.
Bonjour. Vous n'êtes pas trempée ?
Non, non, je suis sèche, sauf aux épaules.
Je suis si contente de vous voir. Je suis toujours contente de vous voir, mais je comprends à la force de mon sentiment comme je me sens seule ici. Tenez, asseyez-vous là près de moi. Vous aimez Spektorski, le nouveau poème de Boris Pasternak ?
Non, mais il y a des passages que j'aime énormément où je retrouve sa voix. Quand je l'entends parler, je comprends la spontanéité de sa poésie.
Mais oui, c'est vrai, Boris est très très semblable à ce qu'il écrit. Et moi aussi ?
Oui, on pourrait dire ça de vous. Vous êtes très semblable à ce que vous écrivez, oui.
C'est pas bien si c'est comme ça, c'est même archi détestable.
Non mais, il y a un passage que j'aime énormément dans ce poème. L'espace dort. Amoureux de l'espace. La ville
est imbibée d'eau et de rêves, une mère éperdue et implorante clapote à son réveil, on ne sait où. Tout rêve, et le cœur s'éprend du murmure, des cours, des banlieues, des chaussées humides, des gouttes et des gonds, miracle informel où tout se pâme et converse avec soi. C'est beau, non ?
C'est mauvais. Je ne parle pas du tout de ce que vous venez de réciter, je parle du poème dans son entier. C'est difficile d'écrire, comme dit Pasternak, sans la boue poétique. Le mot est un matériau terrible. Plus difficile que la couleur, par exemple. N'oubliez pas que le poète travaille avec les mêmes mots qu'utilisent les gens pour s'inviter à prendre un thé. Présenter les mots les uns aux autres, entrechoquer les mots, c'est banal. Ce qui était audacieux il y a quelques années est devenu banal. Il y a autre chose, la précision. Que chaque mot dans le vers soit à sa place, comme s'il y était depuis 1000 ans. Mais que le lecteur l'entende pour la première fois. C'est difficile à faire, mais quand on y parvient, les gens disent « c'est de moi qu'il s'agit, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit ». Et vous, votre travail ?
J'ai fait une lecture de mon roman Sofia Petrovna à mes amis. J'avais invité 8 personnes. Une 9e est venue que je n'avais ni conviée ni souhaitée.
Mais vous ne savez pas dans quel pays vous vivez.
Non, mais cette personne n'était pas un traître, non, simplement une personne trop bavarde. Non, je suis incapable de juger de la qualité de ce que je fais.
Personne n'en est capable. On navigue sans voile, sans gouvernail. C'est seulement après que tout le monde a réagi de la même manière au même passage que l'on commence soi-même à comprendre. Mes poèmes anciens, par exemple, je sais exactement ce qu'ils valent, comme s'ils avaient été écrits par quelqu'un d'autre. Mes poèmes nouveaux, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'ils soient devenus anciens. Je voulais vous faire du thé, mais mes voisins de l'appartement communautaire ont pris ma buvoire, ils ont fermé leur porte à clé, ce qui fait que nous ne boirons pas de thé. Mais où est passé le sucre ? Tania m'a trouvé du sucre, il a disparu.
Le 27 mars 1940.
Je vous ai apporté une tarte. Sous la voûte en bas de chez vous, au lieu de l'éternelle mare, il y a maintenant une éternelle patinoire. J'ai glissé. J'aurais dû lâcher la tarte et me libérer les mains. Au lieu de quoi, je l'ai serré sur mon cœur comme si c'était un trésor sans prix. Et puis je me suis étalée tout mon long sur la glace. La tarte est intacte. Mais moi, je me suis fait très mal à la tête et au coude droit. Tenez.
Merci. J'aimerais beaucoup avoir des chaussures comme les vôtres. D'habitude, aucune chaussure ne me va.
Il y a beaucoup de bruit chez vous.
On fait la fête chez les Pauline. Le gramophone joue toute la nuit. Le nouvel appartement qu'on m'a promis est un mythe. La deuxième pièce de cet appartement-ci, un mythe aussi. Et ma pension qu'on devait augmenter, un mythe elle aussi. Avec moi, c'est toujours comme ça. C'est ma vie, ma biographie. Qui irait dire non à sa propre vie ? J'aimerais beaucoup venir chez vous, mais je ne sais pas où vous habitez.
Mais vous êtes déjà venue, Anna ?
Non, je suis venue accompagnée.
Vous savez vous servir des ascenseurs ?
Magnifiquement. Magnifiquement. Je monte, je descends, comme si de rien n'était. Mais les boutons, je ne sais pas m'en servir. Tenez, je vais goûter cette magnifique tarte.
Avril 1940.
Tenez, je vous ai préparé des photos.
Ah,
regardez.
Ça fait plaisir.
Ça vous dérange pas, non ?
Ah non, au contraire, au contraire. Alors ça, c'est vous ?
Oui.
Et votre maman, c'est ça ?
Oui, ça oui. C'est ma maman. Ça, c'est ma sœur, Ilia.
Ah oui.
Et André, mon frère.
Ah d'accord. Et qui est ce personnage là ?
Écoutez, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait sur la photo. Je comprends pas.
Ah d'accord. Et vous portez tous des Des chapeaux un peu tchékoviens, je trouve.
Non, pas tchékoviens, non, s'il vous plaît, pas tchékoviens.
Et quel est ce livre que vous portez dans la main?
Alors ça, c'est Nekrassov. Chez nous, il n'y avait pas de livre, il y avait un volume de Nekrassov et maman nous le donnait à lire les jours de fête, vous voyez.
Et votre frère et votre sœur aiment la littérature, comme vous?
Écoutez, je ne sais pas, parce que ma sœur est morte de la tuberculose et mon frère s'est tiré une balle dans la tête, donc le problème est réglé, vous voyez. Alors ça, c'est...
Mais c'est impressionnant.
C'est insensé, c'est
vraiment... Ah oui, quelle souplesse.
Oui, alors, vous avez vu, je peux rapprocher la tête de mes pieds, je peux me plier dans tous les sens. Vous savez, des professionnels du cirque m'avaient dit que dans un cirque, je me serais fait une renommée mondiale, internationale.
Ah bah, on n'en doute pas, avoir cette position, c'est très impressionnant. Quand même.
Ah, et ça va beaucoup vous plaire.
Oh là là, il est magnifique, non?
Non, magnifique, non, faut pas exagérer.
Regardez, il a une telle aura, Boris Pasternak.
Vous êtes amoureuse de lui ou pas?
Non, pas du tout, mais vous savez, j'aimerais beaucoup lire mon travail à Boris.
Ça ne sert à rien. Rien ne l'intéresse en dehors de ses propres écrits, donc il ne le lira pas, donc ne lui passez pas. Puis il est très occupé avec sa femme, qui a l'air d'un tank, c'est un dragon à huit pattes.
Écoutez, vous exagérez.
Ça, c'est un tableau que je n'aime pas trop.
Ah non, au contraire. C'est celui d'Anenkov, non?
Oui, c'est ça, mais j'ai l'air tellement triste, lugubre, c'est sordide, je trouve.
Au contraire, une sobriété qui...
Ah non.
Qui ressemble à votre poésie. Je trouve qu'il a saisi vraiment l'économie... de vos poèmes. Non, c'est très très beau. J'aime énormément ce portrait.
Excusez-moi, regardez, ça c'est beaucoup plus beau. Voilà, regardez celui-là, vraiment, il est très très beau, très lumineux.
Voilà, je n'aime pas du tout.
Comment ça, vous aimez pas?
Non, c'est extrêmement démonstratif. Regardez la façon dont vous posez cette main. On dirait, vous savez, on dirait une actrice qui joue Anna Akhmatova.
Quoi?
Non, je n'aime pas du tout. Non, mais c'est extérieur à vous, cette chose volontariste comme ça. Non, je n'aime pas. Excusez-moi.
Écoutez, attendez, je vais vous montrer une autre photo parce que... Voilà, regardez. Ça, c'est moi à la mer. Est-ce que je vous ai déjà raconté comment, à l'époque, les jeunes filles allaient à la mer?
Non.
Alors, elles portaient un corset, un bustier, un jupon à midonné, des petites sandales en caoutchouc, vous voyez, puis un petit bonnet en caoutchouc. Elles entraient dans l'eau, elles barbotaient, une minute, deux minutes, et hop, elles ressortaient. Et c'est alors qu'apparaissait le monstre, moi. Alors, j'étais nue dans une robe fendue, vous voyez, depuis ici, depuis le haut de la cuisse jusqu'au genou. Je rentrais dans la mer, je restais des heures, et puis je sortais la tignasse au vent, pleine de sel, un monstre.
Ça doit vous manquer, la mer, non?
Non, elle est toujours là, avec moi. Ah, j'ai une photo, une surprise. C'est une photo de vous, petite, et votre papa, qui doit être à la signature de ses livres pour enfants.
Ah, oui. Je connaissais pas cette photo, elle est très touchante.
Vous voulez que je vous en fasse cadeau?
Oui, avec plaisir.
Et vous voulez que je vous la dédicace?
D'accord.
Je vais vous la dédicacer. Ah, c'est comme ça que je signe.
Ah, il y a une lettre qui a sauté dans mon nom, mais ce n'est pas grave.
Ah, je suis désolée.
Le plus humiliant pour moi pendant ces années de pauvreté, c'était les chaussures, enfin... Plutôt l'absence de chaussures. À 12 ans, l'hiver, je devais sortir avec les énormes galoches de papa par-dessus mes chaussons. Ils étaient énormes et puis je marchais comme un canard dans la rue. Quand on était petit, papa inventait des jeux. Par exemple, il nous lisait des poèmes et puis on devait deviner l'auteur ou bien on devait reconnaître à l'oreille le rythme, la mesure. La scansion de chaque poème, et ensuite il nous parlait de la vie des poètes. Il nous entraînait à la poésie comme d'autres enfants l'étaient à la musique. Mon père partait de l'idée qu'au-delà du sens, il fallait qu'on sente le rythme de chaque poème. Ma tête était pleine de poésie. Pour moi, c'était plus difficile d'oublier un de ces poèmes que de les retenir. Tous les poètes passaient chez nous, et moi j'entendais le rythme de chaque poème. Il y avait notamment le grand Maïakovski avec sa grande blouse jaune au vent. Puis après avoir griffonné quelque chose sur la table, il récitait, mais comme une éruption volcanique. La poésie, c'est s'occuper à gémir sur les roses. Moi, je ne supporte pas la pensée que la rose n'ait pas été imaginée par moi. Depuis 28 ans, je fais pousser mon cerveau, non pour flairer, mais pour inventer des roses. On déclamait l'inconnu de Bloch avec ivresse. Alors qu'on n'avait jamais bu d'alcool, ni vu d'ivrogne avec des yeux de lapin. On ne comprenait pas tout ce qu'on disait. Et pourtant, tous ces vers, on les aimait passionnément. Un jour, j'ai dit à papa que je vous croisais régulièrement, je devais avoir 13 ans. Il m'a dit d'une voix atrocement sévère, « J'espère que tu notes chacun de ces mots. » Papa croyait que l'art pouvait renouveler l'âme, que c'était important pour le corps, que les livres faisait partie de l'organisme, que cela changeait la consistance du sang. L'art, disait-il, serait notre force à nous. Il nous lisait tous les poètes, tous les soirs. Je crois que les larmes montaient en moi.
Avril 1940.
De là-bas. De là-bas, j'en suis sûre. Une voix de femme qui dit « Je vous parle au nom de toutes vos admiratrices. Nous vous remercions pour vos poèmes et particulièrement pour l'un d'eux. » Pour moi, cela ne fait aucun doute.
Mais tous les doutes sont permis, Anna.
Je demande pardon, je sais comment parlent les admiratrices. C'est quelqu'un de là-bas. Ce n'est pas du tout comme ça que parlent les admiratrices. Vous comprenez ? Elle m'a parlé d'une voix froide comme si elle me sermonnait. Nous vous remercions pour vos poèmes et particulièrement pour l'un d'eux.
Mais c'est vous qui interprétez cette phrase comme vous le souhaitez. Elle a peut-être réellement voulu dire ça.
C'est vous qui dites ça ?
Calmez-vous.
Je ne peux pas sortir sans que quelqu'un me suive. Comment voulez-vous que je garde mes vers à l'abri ? On dit coup pour rasoir, le dos des crocaillés et des livres, mais regardez-vous-même ! On a arraché les rubans de ces dossiers. Je pourrais organiser une exposition de ma collection de rubans arrachés. Tenez, regardez. Vladimir dit de moi à une de nos connaissances communes que j'étais folle. Mais je ne suis pas folle. Les fous, ce sont ceux qui ne savent pas confronter les faits les plus simples.
Anna,
écoutez, j'avais mis dans un cahier un cheveu. Je suis sortie et quand je suis rentrée, le cheveu avait disparu. Ce qui prouve que forcément quelqu'un est venu. De dessous quelle ruine je parle. De dessous quel décombre je crie. Je brûle comme dans la chaux vive sous les voûtes puantes d'une cave. Si vous me survivez, vous enverrez des colis à Liovar?
Évidemment.
Mais où vous allez trouver l'argent pour le faire? Lui là-bas et nous ici. Et comment vous ferez pour supporter cette vie si je ne suis plus là? Et si c'est vous qui mourrez, comment je pourrai vivre toute seule, sans personne avec qui parler?
Anna.
Il faut vivre. Peu importe comment, il faut vivre.
Mai 1940.
Apprenez vite, s'il vous plaît. C'est trop dangereux de garder ces poèmes ici.
Oui.
Apprenez. Non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui souffre.
Non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui
moi,
souffre.
Moi, je ne pourrais souffrir ainsi.
Moi, je ne pourrais souffrir ainsi.
Et ce qui s'est passé... Que des draps noirs le recouvrent.
Qu'on emporte les lanternes.
Nuit.
Non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Moi, je ne pourrais pas souffrir ainsi.
Et ce qui s'est passé,
que des draps noirs le recouvrent, qu'on emporte les lanternes, nuit.
Voilà. Paisiblement coule le ton paisible. La lune jaune entre dans la maison. Son bonnet de travers. La lune jaune voit une ombre. Cette femme est malade.
Cette femme est seule.
Marie dans la tombe, fils en prison, priez pour moi.
Paisiblement coule le temps paisible. La lune jaune entre dans la maison, son bonnet de travers. La lune jaune voit une ombre. Cette femme est malade. Cette femme est seule. Marie dans la tombe, fils en prison, priez pour moi. Se réveiller à l'aurore parce que la joie est trop forte. Regardez par le hublot comme l'eau est verte. Monter sur le pont, le temps est gris. enveloppé de fourrure duveteuse, écouter le bruit de la machine et ne penser à rien. Mais, sachant que je vais revoir celui qui est devenu mon étoile, me retrouver dans la brise et les embruns à chaque instant plus jeune. Bien que la mort, au fond des yeux, regarde nuit et jour, moi de nouveau selon ton vœu, ce soir je vote pour que la porte soit une porte, le verrou un verrou, et que cette bête qui me dévore devienne un cœur. Tous, nous aurons appris ce que veut dire rester 3 années sans dormir, aller à l'aube sans quérir de ceux qui, dans la nuit, sont morts.
Anna écrivait les poèmes. Elle me les donnait à lire pour que je les retienne, puis elle les brûlait. Je partais tard. Je marchais dans le noir en redisant ces vers. Il était indispensable que je me les rappelle, tous, du premier jusqu'au dernier. Car désormais, je ne pouvais plus me séparer d'eux un seul instant. Aux endroits que ma mémoire avait laissé échapper, je mettais des mots à moi pour garder le rythme. Et en réponse, du fond de ma mémoire, ces mots de remplacement faisaient surgir les bons. Je réussis à tout retrouver. En revanche, en me lavant et en me déshabillant, je fus incapable de me rappeler le chemin que j'avais emprunté pour rentrer chez moi. Est-ce que j'avais traversé la cour de la maison de la science récréative? Ou la perspective Nevski? J'avais marché comme une somnambule. Au lieu de la lune, des vers me guidaient. Et le monde était absent.
Juin 1940. C'est la guerre.
J'interromps mon journal. J'ai perdu le dernier cahier. C'est regrettable car à l'époque, je commençais à travailler sur le poème sans héros et j'avais pris des notes. Peut-être que je les ai détruites dans un accès de peur qui me prenait à cette époque de surveillance généralisée.
L'URSS est envahie. Blocus de Leningrad.
Les gens mangent des chats, des chiens.
Juin 1941.
C'est décidé, je pars avec vous.
Exode, nouveau départ. Elles partent pour Tashkent. Dans le train, Anna ne quitte pas la fenêtre.
Je suis si heureuse de voir tant de Russie.
Le voyage dure 3 semaines, froid, wagon bondé, secousse. Des petits ouzbeks lancent des petits cailloux contre la vitre. Dans les gares, sur les quais, des femmes, des enfants, des baluchons.
Des yeux, des yeux.
Quand Anna Akhmatova regarde ces femmes, ces enfants, son visage se met à ressembler à leur visage. Une paysanne, une réfugiée.
Vous avez vu là-bas? Regardez, un aigle.
Tashkent. Elles partent et habitent dans une petite chambre. Leurs conditions de vie sont difficiles. Elles attrapent le typhus. Anna devient tyrannique, injuste, Lydia est débordée. Elle se fâche et elle se quitte.
On se ressemble?
Non, on est à l'opposé.
1942, 1943, 1944, 1945, fin de la guerre. 1946. Anna Akhmatova est exclue de l'Union des écrivains.
Anna Akhmatova est une obscurantiste morbide, réactionnaire, renégate et non débauchée.
Rapport de Jdanov.
Ses poèmes sont des sujets érotiques mêlés de tristesse, d'angoisse et de mysticisme. Ses œuvres peuvent semer la détresse et le pessimisme
Choc.
Pour la jeunesse.
Elle est interdite de publication. 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952. Lydia téléphone à Anna.
Venez. Venez dans 20 minutes.
Nous ne nous sommes pas vus depuis 10 ans. En bas de chez elle, toujours la grande flaque, l'escalier noir défoncé. Elle m'ouvre la porte sans que j'aie le temps de sonner. Elle me serre la main. Ce qui me frappe, ce sont ses cheveux argentés, sa corpulence. Elle est devenue plus large, plus ample. Elle a probablement autant de mal à s'habituer à ma nouvelle physionomie que moi à la sienne. Seul son regard est resté le même. Et sa voix. Et soudain, il se passe une chose étrange. En l'écoutant parler, je la retrouve. Je retrouve son apparence d'avant, ses intonations, ses mouvements d'épaule indignés, ses silences. En quelques instants, 10 années se sont envolées.
« 1953, mort de Staline. »
«
1955, 1956. »«
Retour de mon fils, Lyova. »
1957.
Je suis convoquée à l'état civil où l'on me remet le certificat de décès de mon mari Mitya. C'est la première étape de la réhabilitation. C'est étrange. Alors que Mitya a été fusillé il y a plus de 19 ans, ce misérable bout de papier, officiel et falsifié, m'a bouleversée comme au premier jour. Pendant 19 ans, je n'ai rien oublié. Mais aujourd'hui, je me suis souvenue.
1958, le prix Nobel est décerné à Dr Jivago. Pasternak est exclu de l'Union des écrivains. Liucha à l'université, reçu à ses examens.
On m'a téléphoné depuis l'Union des écrivains. Il s'agit de ratifier l'exclusion de Pasternak. Et il faut parler et parler et tout leur dire. Mais si je parle, je serai à mon tour exclu de l'Union des écrivains. Et papa aura une nouvelle attaque. On ne me laissera pas monter à la tribune. La cérémonie aura été fixée à l'avance avec répétition générale au préalable. Alors, je parlerai depuis ma place. Je crierai plutôt. Une phrase avant qu'on m'expulse, par exemple. Pushkin a dit qu'il fallait se solidariser avec le génie. On sifflera, il y aura des huées. Eh bien, je quitterai la salle de moi-même. Tout ça portera un coup à papa. Ceux qui aiment Boris Pasternak n'iront probablement pas à la réunion. Ils se feront porter malade. Ils quitteront Moscou comme on le faisait dans les années 30, quand on savait qu'une réunion devait adopter une résolution sur la nécessité de fusiller quelqu'un. En me dérobant à la réunion pour ne pas avoir à prendre la parole, j'ai trahi. J'aurai le sentiment jusqu'à la fin de ma vie d'avoir été un traître.
Mais vous êtes allé voir Pasternak alors que tout le monde le considérait comme un pestiféré.
1959.
Vous me lisez votre livre, La Plongée. Chaque mot est vrai, chaque mot est juste.
1960. Mort de Boris Pasternak. À son enterrement, une foule de gens, tous ses amis, des vieilles paysannes avec leurs enfants, des poètes, des étudiants qui lisent ses poèmes toute la nuit, des vers publiés et des vers non publiés. 1962. Anna est victime d'un troisième infarctus.
Les médecins disent que c'est un miracle si je suis vivante.
Requiem sort à l'étranger, à Munich, mais pas en URSS. 1963, 1964, 1965, Anna enchaîne les infarctus. 5 mars 1966.
Ma petite Lucha me dit « Assieds-toi, un grand malheur est arrivé. » Anna Akhmatova est morte. Je repensais à nos rencontres.
Maintenant, on peut de nouveau noter les poèmes. Ils ne sont pas encore publiés, mais on peut les noter.
5 mai 1955.
Préparez votre bloc-notes, s'il vous plaît. Il faut retrouver les variantes, mettre la ponctuation et retrouver les bonnes dates. Vous pouvez changer des mots, bien sûr. Il faut trouver des mots plus effrayants, c'est encore à l'état de chaos. Élégie, notez bien là, s'il vous plaît.
D'accord.
Élégie, une maison loin de tout. Il y fait trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Il y a des araignées, de la poussière partout. Les lettres passionnées y moisissent. Moisissent, c'est faible comme verbe, trop faible, s'il vous plaît, changez. Les portraits s'y transforment sournoisement. Sournoisement, cet adverbe ne va pas. Changez, s'il vous plaît. Retrouvez la première variante. Les gens y vont comme on va sur une tombe. Rentrer chez eux, ils se lavent les mains.
Pas si vite.
Oui. Rentrer chez eux, ils se lavent les mains avec du savon. Une petite larme est suspendue à leurs paupières fatiguées. Ils la font tomber. Péniblement, ils poussent des soupirs. Tic-tac de l'horloge. Un printemps chasse l'autre. Le ciel vire au rose. Vire. Ça non plus, ça va pas du tout. Vous aviez retrouvé un autre mot la dernière fois. Le ciel vire au rose. Personne avec qui pleurer. Avec qui remuer ses souvenirs. Lentement de nous, les ombres s'éloignent. Déjà, nous ne nous les rappelons plus. Elles nous feraient peur si elles revenaient. Une fois réveillées, nous comprenons que nous avons oublié le chemin, celui qui mène à cette maison loin de tout. Soudain, nous y courons, mais comme il arrive en rêve, tout a changé, les gens, les objets, les murs. Et Requiem. Maintenant, passons à Requiem, la préface de Requiem.
D'accord.
Il faut vraiment bien ponctuer Requiem, s'il vous plaît.
On garde la première variante.
Oui, la première variante, bien sûr. Dans les années terribles du règne de Yezhov, j'ai passé 17 mois dans les files d'attente de prison de Leningrad. Un jour, quelqu'un me reconnut. Reconnut, je crois...
Il y a des guillemets.
Des guillemets, oui, c'est ça. Alors, la femme qui se tenait derrière moi à les lèvres bleues, et qui bien sûr n'avait jamais entendu mon nom de sa vie, sortant de l'engourdissement qui nous était commun, me demanda à l'oreille. Là-bas, tout le monde chuchotait. Là-bas, tout le monde chuchotait, entre parenthèses. Et ça, vous pouvez le décrire. Et j'ai dit... Je peux. Alors, Quelque chose comme un sourire glissa sur ce qui autrefois avait été son visage. Un autre poème, s'il vous plaît. Comme sur le bord d'un nuage, je me rappelle tes paroles. Mais à cause de mes paroles, tes nuits sont claires plus que tes jours. Donc, repoussés loin de la terre, nous allions... Je ne me souviens plus de la suite. Vous pouvez retrouver, s'il vous plaît, les derniers vers de ce poème.
Mais c'est la première fois que j'entends ce poème.
Juste les derniers vers, Lydia. Le reste, je le sais.
Mais je ne l'ai jamais entendu.
Vous êtes mon dernier espoir. Les quatre derniers vers. Vite, s'il vous plaît.
Mais je ne le connais pas.
Vite, s'il vous plaît.
Novembre 1957.
Je m'agite. Je m'agite énormément. Pour gagner de l'argent. Et aussi pour... participer à la vie sociale. Je vis dans la précipitation, la course au gagne-pain. Mes cours à l'Institut de littérature, la réhabilitation de mon mari Mitya, les préparatifs du procès, toutes ces activités se superposent et je n'arrive à rien noter dans mon journal. Un fait chasse l'autre et rien ne parvient au stade de l'expression écrite. Non seulement je n'arrive pas à m'exprimer avec des mots, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je me suis mise à pleurer dans le bureau du commandant au parquet en lisant le certificat de réhabilitation posthume de mon mari Mitya. J'ai lu la formule consacrée, faute de preuves formelles, et j'ai fondu en larmes. Comme toutes les autres femmes, dans la salle d'attente, en sortant, chacune d'elles, sans exception, pleurait. Comme si nous apprenions un fait nouveau, un fait infiniment désolant. Lorsqu'est venu mon tour d'entrer dans le bureau, j'ai vu que l'eau dans la carafe tremblait encore. Le commandant m'a invité à m'asseoir, il m'a tendu le certificat que j'ai lu sur le champ. Aussitôt, j'ai fondu en larmes. Le commandant a surmonté son propre chagrin virilement, il m'a exprimé ses condoléances et il m'a versé un verre d'eau. Je l'ai bu tout en continuant à pleurer. La condamnation avait été annulée, faute de preuves formelles. Mais comme si je n'avais jamais su que mon mari Mitya n'avait commis aucun crime, et que s'il avait vécu, il aurait été une des gloires de notre pays, qu'on avait fusillé un homme d'une grande force d'âme, un esprit supérieur, un être exceptionnellement doué. Quand je pense que je me suis effondrée en présence de ce commandant courtois, de ce rouage de l'appareil répressif qui, chaque mercredi de midi à 16h, présente ses condoléances aux femmes des réhabilités posthumes. Mais quelle honte ! Moi, qui avais encore le front il y a peu de temps de critiquer les femmes qui pleuraient en entendant lire le rapport Khrouchtchov, au moins n'était-ce pas devant un commandant du parquet militaire. Mon récit est au-dessous de la vérité. Le ton n'est pas celui qu'il faudrait. Le niveau n'est pas le bon. J'ai écrit tout cela trop vite, sur un petit bloc-notes, dans le couloir de l'Institut de littérature, assise sur le rebord de fenêtre.
26 mars 1958.
Vous le reconnaissez ? C'est mon fils, Lyova.
Lyova ? Je ne l'avais pas reconnu. Quelle sensation d'immensité et d'insignifiance. Cela arrive quand on aime. On découvre d'étranges coïncidences dans les dates. Le cœur défaille à chaque coup de téléphone, à chaque passage du facteur. On lit les lettres d'une main tremblante pour s'apercevoir qu'après tout, il ne s'agissait que d'un homme, avec une tête, des bras, des jambes. Un homme. Cet être insignifiant, bouleversant et ordinaire. Il est devant moi. C'est un mot composé de ces cinq lettres. Lyova, Lyova, Lyova.
Septembre 1958.
Le matin, quand le soleil se lève ici, c'est tellement beau. On voit le clocher de Saint-Clément, les arbres tout illuminés, tout blancs de neige, et les pigeons. On a perdu l'habitude des pigeons. Le numéro du dossier de votre mari passe dans 6 semaines. Combien en ont-ils de ces numéros, de ces dossiers ? Des millions ! des dizaines de millions. Si on les posait les uns sur les autres, cela couvrirait la distance de la Terre à la Lune.
La révision de chacun de ces dossiers me paraît être une aberration. Il n'y a jamais eu d'affaires individuelles. La population a été exterminée par couches entières, tantôt les Finnois, tantôt les directeurs d'usines, tantôt ceux qui s'étaient battus en Espagne, tantôt ceux qui avaient de la famille à l'étranger. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est réhabiliter dans un manifeste commun tous ces hommes et toutes ces femmes. Ou même mieux, dénoncer l'administration qui a fabriqué tous ces ennemis du peuple. C'est ça qu'il faudrait faire.
Vos raisonnements sont justes, mais vous n'êtes pas lucide du tout. Vous voulez croire que tout le monde est aussi heureux que vous, des retours, des réhabilitations ? Que les gens n'ont qu'un désir, voir revenir tous ceux qui étaient là-bas ? Vous vous trompez ? Leur calcul était simple, de là-bas, pas de retour. Et vous, vous dites qu'on envoie des avions, des trains, vous êtes très très drôle.
Mais Staline est mort, mort réellement, et nous, nous avons vécu jusque-là. Et Beria a été exécutée. Des millions de gens sont déjà rentrés. Et votre fils Lova est revenu.
Oui, mais nous, nous ne nous sommes jamais fait d'illusions sur Staline, vous et moi, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de recevoir confirmation par le rapport Khrouchtchev de ce que nous avions deviné.
Beaucoup. Beaucoup, surtout parmi les jeunes, sont troublés, meurtris par les révélations sur Staline.
Non.
Il y a encore des gens pour le défendre. Une amie m'a dit, mais nous ne sommes pas au courant. D'où saurions-nous quoi que ce soit ? Tout ce qu'on nous raconte sur lui, ce sont peut-être des mensonges. Nous ne savons rien.
C'est n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Tout le monde comprenait, sauf les enfants qu'on allait.
Je ne suis pas d'accord. J'ai rencontré des gens honnêtes, sincères, désintéressés que l'idée qu'on les trompait n'a jamais effleuré. Ils croyaient aveuglément.
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Les pierres hurlent, les roseaux se mettent à parler et vous vous dites que les gens ne voient pas, n'entendent pas. Ce n'est pas vrai, ils ont fait semblant. Ils avaient tout intérêt à faire semblant, devant les autres, devant eux-mêmes. Mais vous, vous aviez déjà tout compris à l'époque. Tout ce qu'on disait des ennemis du peuple n'était que du mensonge, de la calomnie, de la saloperie sanglante. Maintenant qu'il y ait eu des gens qui n'aient pas voulu comprendre, c'est une autre affaire. Des gens comme cela, il y en a toujours. Mais dites-moi, vous qui avez écouté la lecture du rapport Khrouchtchev du début à la fin, y avez-vous trouvé quoi que ce soit de neuf ?
Oui.
Quoi ?
Entendre proclamer ce qu'on nous a tué pendant des années est invraisemblable. Il y a 18 ou 19 ans, à Leningrad, on était nombreux à se demander comment Staline s'y prenait pour dire à ses collaborateurs qu'il était permis et même recommandé de torturer les prisonniers pendant l'enquête. On comprenait que c'était lui le grand inventeur du système tortionnaire. Mais on pensait qu'il était plus hypocrite, plus retors. D'autant plus qu'il affirmait « le régime soviétique est le plus humain au monde ». Or, il apparaît maintenant que Staline parlait franchement, ouvertement, à cœur ouvert. Eh bien, c'est cette franchise-là qui est nouvelle pour moi.
Vous trouvez cela nouveau, vous ? Le fait qu'il n'ait pas mâché ses mots, je l'ai toujours su, mais qui aurait pu le gêner ? Quel dommage que nous n'ayons pas noté nos rêves à l'époque. Quel document précieux ce serait pour l'histoire.
Mais nous n'avions même pas le temps de noter la réalité, un millionième, une toute petite fraction de cette réalité. Mais une question m'obsède toujours.
Dites-moi.
Comment se fait-il que toutes les joies que j'éprouve en ce moment me paraissent empoisonnées ? Et je jure que ce n'est pas dû au fait que les autres sont de retour, alors que mon mari Mitya, lui, ne reviendra jamais. Non, ce n'est pas à cause de cela, je le jure.
Pourquoi ? Parce que vous voulez faire comme si ces années n'avaient pas été là. Mais elles étaient là. Il ne faut pas les effacer. Le temps n'est pas figé, il avance. On peut renvoyer les prisonniers des camps chez eux, mais ni vous, ni eux ne pouvez revenir au jour où l'on a été séparés les uns des autres. Ce jour pour vous, pour eux, a été atroce, mais c'était un jour de votre vie. Et vous, vous voudriez que ce ne soit pas seulement les gens qui reviennent. Mais ce jour, que la vie brutalement interrompue puisse miraculeusement recommencer au même endroit où on l'a interrompue. Que ça se recolle là où on a coupé à la hache. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme de la colle. Je suis fatiguée. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment.
Ah, je ne lis pas, je relis.
Tchekhov.
Vous vous souvenez, une fois vous m'avez dit que la mère ne vous manquait pas
oui.
parce qu'elle était en vous, à côté de vous. Eh bien, pour moi, c'est la même chose avec Tchekhov. Je connais avec plus de précision sa vie que ma propre vie.
Non, ce n'est pas moi. C'est vous qui devriez relire Tchekhov.
Vous êtes très en forme aujourd'hui. Vous auriez dû prononcer un discours devant des étudiants. J'ai un cadeau pour vous. Vous êtes la première.
Ah, merci.
Il n'est pas édité, mais il a été entièrement dactylographié, tapé à la machine, relié. Et je vous ai mis une dédicace, là.
Ah oui. Requiem. À Lydia, pour qu'elle se souvienne de tout ce qui ne figure pas dans ce livre.
C'était Deux ampoules sur cinq, librement inspiré de Notes sur Anna Akhmatova de Lydia Tchoukovskaya. Adaptation Isabelle Lafont. Traduction Bronia Steinlourt et Isabelle Lafont. Avec Isabelle Lafont, Anna Akhmatova, Joanna Cortas-Altès, Lydia Tchoukovskaya, Olivier Cruveillé, Jdanov, et les voix de Renaud Bertin, Bertrand de Rofignac, Aurélie Vérillon, Sonia Masson, Yana Bitnerova, Aliona Kourpov. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Patrick Martinache. Composition musicale et interprétation, Damien Salençon. Prise de son, montage et mixage, Frédéric Changenet, Julien Douminc. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Pascal Deux.